Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gods sont en formation réduite à la comédie Odéon pour évoquer la reprise. La fréquentation d'œuvres d'art, la vie des artistes, le rire, les livres, la musique et bien d'autres sujets seront au programme de ce nouveau numéro. Partagez une fois encore notre enthousiasme pour ce qui se fait à Lyon. Au sommaire, Louise Combier qui répondra aux questions toujours bien choisies de Guillaume, notre maître de musique pour Soul Kitchen. Pour suivre, deux invités qui font l'actualité du cinéma et du théâtre, Émile Bellevaux, programmateur du Ciné-Café Aquarius, et Courtney Gerarty. Il va falloir que je travaille son nom. C'est une personne à suivre. C'est la nouvelle directrice du théâtre de la Croix-Rousse. Figurez-vous, elle est franco-américaine. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, les incontournables du moment. On se retrouve sur le plateau avec Louise Combier, bonjour.
Bonjour.
Et merci Guillaume pour cette belle découverte. Nous avions reçu l'été dernier et nous avions été sous le charme de Louise. Bref, je vous laisse avec Guillaume qui parlera mieux que moi et avec vous de votre travail. Salut Guillaume.
Bonjour Gaëlle. Alors c'est, oui, c'est vrai, on l'avait reçu l'année dernière, il n'y a pas très longtemps. Alors je voulais inviter Louise parce que la dernière fois, elle n'avait pas chanté, si je ne m'abuse. Voilà, et là, tu vas nous chanter un titre un petit peu inédit. On va en parler un petit peu plus tard. Tu as joué justement à tout bout de champ il n'y a pas très longtemps. C'était un très très beau concert. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a évolué dans ton projet depuis l'année dernière?
Depuis l'année dernière, il s'est passé pas mal de choses. Je me suis séparée de l'équipe avec laquelle je travaillais et de mon pianiste. Et donc, j'ai rencontré cette pianiste Marie Robert qui m'accompagne aujourd'hui. Et on a travaillé. En tout cas, la chose nouvelle, c'est que maintenant, en concert, il y a deux claviers. Donc, un piano acoustique et un clavier qui a des sonorités vraiment différentes. Et moi, ce que j'aime, c'est justement de travailler les sons de plus en plus pour pouvoir servir les chansons de mieux en mieux.
Tout à fait, et donc tu as sorti deux titres récemment, deux titres que tu as clippés toi-même. Tu peux nous parler un petit peu de ces clips? Moi j'avoue que j'aime beaucoup que ce soit l'un ou l'autre, le premier qui est très intime alors que l'autre est plutôt très aérien, on va dire, et donc c'est toi qui as eu l'idée de la réalisation.
Oui, alors j'ai eu la chance d'être très inspirée pendant le premier confinement. J'aurais d'ailleurs aimé que ça dure, j'étais bien. Enfin, moi j'ai vraiment adoré cette ville, en plus complètement vide. Donc j'ai composé quelques titres, dont ces deux-là qui sont sortis. Et un an plus tard, j'ai réalisé le clip avec l'aide de mon compagnon, qui m'aide d'une grande aide. Mais on a fait ça ensemble, tous les deux, avec un petit appareil photo. Et j'adore vraiment la vidéo, j'adore le cinéma. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça, vraiment.
Et puis dans le nouveau titre, là, justement, peut-être pour revenir sur la sonorité de clavier que tu utilises sur scène, il y a une petite pointe dans ce type d'électro. J'aime pas dire le mot électro parce que c'est tout de suite très connoté, mais il y a une sonorité qui arrive au milieu du titre, qui fait basculer le titre un petit peu vers un ailleurs. Alors, quelle est ton intention là-dedans?
Oui, complètement. J'avais envie de ne pas m'ancrer dans ce qu'on peut appeler de la chanson française traditionnelle et j'avais envie donc de sons, on peut dire, même si ça ne veut pas dire grand-chose, un peu plus moderne. En tout cas, ça apporte une touche assez différente. Et là, c'est sur ce titre Orpheline du jour, c'est encore des sons assez classiques, on va dire. Et vraiment, le but, c'est de travailler les sons. J'adore vraiment faire ça.
Justement, tu t'inspires de qui? Est-ce que tu as vraiment quelqu'un qui serait dans ton panthéon musical?
Là, comme ça, je vois pas. Tu me prends un peu de cours à chaque fois qu'on me pose cette question. C'est vrai que c'est pas facile d'y répondre.
Scène, donc, tu mets en musique des poèmes de Michel Houellebecq. Alors, comment as-tu découvert Michel Houellebecq? Peut-être par les romans d'abord et ensuite par la poésie, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être l'inverse?
Alors, je l'ai découvert par les romans d'abord. Moi, j'aime beaucoup sa plume. Et puis ensuite, j'ai découvert ses poèmes un peu plus tardivement. Et là, vraiment, j'ai eu un grand coup de cœur pour ses poèmes qui, au premier abord, à la première lecture, semblent pas vraiment musicaux et qui, en fait, le sont terriblement. Et c'est. Enfin, j'ai vraiment découvert une passion pour ses poèmes.
Tu vas nous en chanter un ce soir, je
oui.
crois. Tu peux nous parler de ce poème-là en particulier, Libellule, je crois.
puisqu'il faut que les libellules. Bon, bah, ça parle de la mort. Moi, ce que j'aime, c'est son ton. Enfin, il parle de manière très grossière, très crue parfois. Il aborde les choses de manière très scientifique. Et puis, il y a des phrases qui nous ramènent. Nos nuits seront dans des interludes dans le calme affreux de l'azur et qui nous parlent vraiment, qui sont très touchantes, qui arrivent après les mots glaçants du végétal, obscène. Et c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce contraste qu'il a dans l'écriture. Je trouve ça vraiment très beau.
Et alors, comment tu choisis le poème dans un recueil et puis comment tu le mets en musique au piano? Enfin, comment ça marche? Est-ce que tu as d'abord une mélodie et puis tu vas poser le texte dessus ou l'inverse?
Alors, l'inverse, en général, je choisis d'abord le texte et ensuite je trouve la mélodie, les accords qui vont servir en tout cas du mieux que je peux le texte.
Puis peut-être une dernière question sur ton futur, même si tu veux peut-être pas trop en parler, mais est-ce qu'il y a un album en vue? On n'a pas évoqué une personne importante là qui a enregistré quand même. Certains tes titres, Thibaut, Labbé, qui quand même, je pense, a une petite touche un petit peu plus pop, moderne, tu dirais tout à l'heure. Une jeune fille moderne, en fait, puisque tu sais, on disait les jeunes hommes modernes là, dans les années 80. Donc voilà, est-ce qu'il a un rôle un peu particulier et est-ce que vraiment il va y avoir un album?
Thibaut Labbé, il a fait un travail extraordinaire sur les arrangements, sur le mixage et ce qu'on appelle le mastering. Sur ces titres-là que j'ai enregistrés donc, pendant le confinement dernier, il y en a encore deux qu'on a enregistrés qui ne sont pas encore sortis. C'est sûr que je continuerai à travailler avec lui sur certains titres, mais pour l'instant, il y a un album qui se prépare et qui sont en collaboration avec d'autres artistes dont je ne dévoilerai pas encore les noms.
Très bien. Eh bien, on va t'écouter tout de suite avec ce titre.
Puisqu'il faut que les libellules. Merci beaucoup pour l'invitation.
Puisque la peau du végétal, comme une moisissure obscène, doit combler le minéral. Puisqu'il nous faut sortir de scène et nous étendre dans la terre, comme on rejoint un mauvais rêve. Puisque la vie est amère, puisque toute journée s'achève. Puisque la peau du végétal, comme une moisissure obscène, doit gangrener le minéral. Puisqu'il nous faut sortir de scène et nous étendre dans la terre, comme on rejoint un mauvais rêve. Puisque la vie est amère, puisque toute journée s'achève. Puisqu'il faut que les libellules sectionnent sans fin l'atmosphère. Que sur l'étang grèvent les bulles. puisque tout finit en matière. Nos nuits seront des interludes dans le calme à feu de l'azur.
Belvaux, bonjour. Vous êtes programmateur du Ciné-Café Aquarius, un lieu associatif dédié au 7e art, créé en 2016, 10 rue Dumont, dans le 4e arrondissement. Le cinéma, le vrai, c'est celui que vous défendez.
Enfin, le vrai cinéma, je ne sais pas, mais en tout cas, disons qu'on essaie d'avoir un cinéma assez éclectique qui peut réunir le plus grand nombre sans non plus tomber dans la grosse comédie française un petit peu cliché ou le gros film d'action basique hollywoodien de l'été. On essaie d'avoir en tout cas une programmation très éclectique qui s'adresse pas non plus à un public de niche. C'est surtout un prétexte pour avoir des moments de rencontre, de partage et d'échange avec des invités.
Racontez-nous l'histoire d'abord du Ciné-Café Aquarius. Parce que finalement, vous avez sauvé un vidéoclub. C'est un peu ça.
Oui, c'est exactement ça. Je vous reprends, c'est Ciné-Café Aquarium. Effectivement, on a...
C'est le drôle de poisson comme celui exactement. Nommé Vanda, par exemple.
Tout à fait, très belle référence. Originellement, c'était un vidéoclub. Ça faisait partie d'un groupement de plusieurs vidéoclubs dans Lyon qui ont tous fermé les uns après les autres. Il ne restait plus que celui-là. Quand la personne qui tenait ce vidéoclub est partie, l'association a décidé de reprendre ce vidéoclub et de le transformer pour en faire un espace de projection, de rencontre et également un bar associatif. Pour pouvoir continuer à faire tourner aussi le vidéoclub, parce que ça donne beaucoup de cachet au lieu, qu'il avait tout de même une certaine clientèle. Et puis ça reste le dernier vidéoclub de Lyon, donc on a approximativement 10 000 titres de films et de séries. Et on continue de l'alimenter.
Effectivement, voilà. Moi je pensais en fait que les vidéoclubs avaient totalement disparu.
Bah, c'est en passe, effectivement, mais on résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme on dit.
Moi je suis ravie de savoir qu'il y a des résistants dans ma ville qui a été marqué comme ça.
Tout à fait.
Très important. De résister justement à ces plateformes de streaming.
C'est ça.
Le cinéma qu'on partage finalement dans une petite salle.
Exactement.
Vous disiez que vous aviez à peu près 50 sièges.
C'est ça. On est, alors hors Covid, on peut monter un peu plus de 50 sièges, jusqu'à 60 approximativement. Mm-hmm. Là, c'est vrai qu'avec la jauge réduite, on est plus aux alentours de 35-40. Mais ça permet justement d'avoir ce côté un peu, cette proximité et de favoriser justement les échanges. Le public qui vient se sent tout de suite un plus à l'aise, notamment, bon, la salle est aussi faite pour ça, il y a un bar, il y a des canapés, on n'est pas sur des sièges de cinéma classiques, donc c'est vraiment pour favoriser la rencontre et ce lieu un petit peu exigu, un peu petit favorise aussi ça, et c'est là-dessus qu'on apporte aussi notre plus-value pour concurrencer tout ce qui est plateforme, cinéma classique, c'est d'avoir ces temps d'échange, de rencontre avec des interlocuteurs privilégiés.
Le Ciné-Café Aquarium est une association, donc on adhère d'abord. À combien se porte l'adhésion ?
Alors l'adhésion se porte à 4 euros, ce qui est une adhésion valable pour un an jour pour jour.
C'est symbolique.
Exactement, c'est vraiment une obligation légale et c'est aussi pour soutenir l'association. Comme c'est du jour pour jour, en plus, n'importe qui peut adhérer quand il veut, ce ne sera pas sur la saison. Si la personne arrive en fin de saison, ce sera valable pour la saison qui est suivante. Et après, la personne a accès à absolument tous les événements qui se dérouleront à Aquarium, que ce soit projection ou autre.
Alors justement, il y a beaucoup de rendez-vous. Et vous êtes en lien, en partenariat, on peut dire, avec des événements comme Écran Mixte, par exemple,
Absolument.
Ou le Théâtre du Point du Jour.
On a fait notre séance de réouverture la semaine dernière avec une séance en partenariat avec le Théâtre du Jour qui mettait en avant une pièce, un spectacle monté par Étienne Godillère qui s'intitule Cannes 39-90, une histoire du festival. Ils ont une magnifique programmation et du coup, ça nous semblait logique de s'intégrer dans cette réouverture pour proposer un film qui est lié au Festival de Cannes. Et voilà, c'est toujours dans cette idée d'avoir des partenaires culturels très intéressants. On a Écran Mixte, comme vous le mentionniez, où ils ont leur festival en ce moment. Et c'est donc aussi pour cette raison qu'on fait des projections en partenariat avec eux. Mais
la
dès septembre...
c'est le samedi 26 juin à 20h30.
Oui, absolument. On fait un hommage à Delphine Seyrig, où on va projeter trois courts-métrages qu'elle a réalisés et qui seront donc en partenariat avec Écran Mixte. Donc le directeur Olivier Leculier sera là pour avoir un échange avec le public et avec une invitée assez prestigieuse, donc c'est chouette.
Quand je vous écoute parler, Émile, moi j'ai l'impression qu'on a une petite cinémathèque lyonnaise.
En fait, quand le Aquarium s'est créé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément de lieu à Lyon qui pouvait favoriser, ou en tout cas pas assez de lieux qui favorisaient une sorte de rencontres entre un peu tous les acteurs et ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment le but d'Aquarium, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs culturels, pas seulement audiovisuels, mais vraiment culturels, puissent se retrouver dans le lieu, puissent échanger, puissent partager. Et évidemment avec un axe majeur du cinéma, mais pas que. Et c'est vrai que le lieu commence à être identifié un peu tel quel, et ça nous fait vraiment très chaud au cœur de voir que, même après le Covid justement, les gens sont au rendez-vous, que ce soit le public ou que ce soit les structures et les particuliers.
Alors nous sommes dans la ville de naissance du cinéma avec les Frères Lumière. C'est d'autant plus important d'avoir sauvé ce vidéoclub. Bien sûr, nous avons l'Institut Lumière, nous
Évidemment.
Avons des références en matière de cinéma avec Thierry Frémaux et d'autres. Vous vous inscrivez où dans toute cette tradition entre les Frères Lumière et Thierry Frémaux?
L'idée d'origine, effectivement, c'est vraiment juste la passion du cinéma et de la faire découvrir et de la faire partager au plus grand nombre.
Je voudrais terminer mon interview par quelque chose qui, moi, me séduit absolument, c'est vos apéros sceptiques.
Les apéros sceptiques, ça rentre dans les cases du week-end. Donc les apéros sceptiques qui se font en partenariat avec un groupe lyonnais qui s'appelle les apéros sceptiques de Lyon. C'est un groupe de chercheurs, d'enseignants, de plusieurs personnes qui décident de s'attaquer à une croyance, à un thème et de l'aborder de manière très pragmatique, très scientifique. Le prochain apéro sceptique, il portera sur le scepticisme dans les œuvres de fiction. Et donc, on prendra notamment deux œuvres pour cas d'étude qui sont Harry Potter et Le nom de la rose de Umberto Eco. Ouais. Donc ça promet une belle soirée.
Une belle...
Surtout à Aquarium, on est calé dans des canapés avec une bière à la main et un croque-monsieur dans la bouche.
Je rappelle, cinécaféaquarium.com.
C'est internet, Aquarium Ciné Café. Vous tombez sur la page internet et sinon sur la page Facebook, évidemment.
Parfait, à bientôt.
À bientôt.
J'ai besoin d'abord de prendre un petit cours de prononciation.
Oui, c'est Courtney Geraghty. C'est un nom d'origine irlandaise et peut-être, je ne sais pas, avez-vous des vieux souvenirs de vos cours d'anglais où il y a un GHT qui devient neutre dans les mots comme night et fight, et c'est la même chose.
Vous êtes la nouvelle directrice du théâtre de la Croix-Rousse. Vous êtes arrivée en plein confinement. C'est pour ça qu'on ne se connaît pas encore. La grande voyageuse que vous êtes arrive à Lyon.
Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance et de beaucoup voyager. Et effectivement, c'est la première fois que je viens habiter à Lyon, donc c'est tout nouveau pour moi. Juste avant la pandémie, j'habitais à Brooklyn, à New York. Et c'est vrai que je dis, c'est peut-être étonnant, mais la Croix-Rousse me rappelle par beaucoup de côtés Brooklyn. Il y a ce côté un peu village dans la ville, on dit souvent ça, mais en fait, les deux quartiers ont ça en commun. Et je me suis retrouvée dans cette Croix-Rousse très engagée, très vibrante, très colorée. Voilà, je me sens tout de suite ici, chez moi, et je suis très heureuse, après ce grand tour du monde, comme vous dites, de poser mes bagages ici.
Quelle est votre formation ?
Ma formation, elle est vraiment dans le spectacle vivant. J'ai d'abord fait un conservatoire après le lycée de théâtre en pensant vouloir devenir comédienne. J'ai vite réalisé que la pratique artistique n'était pas pour moi et j'ai trouvé ma place à l'endroit de la salle de théâtre dans une articulation entre les publics et les artistes. C'est vraiment à cet endroit que j'aime être et donc j'ai du coup, suite à ça, fait en parallèle une licence d'études théâtrales et puis un master de gestion culturelle.
C'est comme ça que vous vous êtes retrouvée à la tête de plusieurs théâtres mais aussi des missions au Japon.
Oui, complètement. vraiment, dès la fin de mes études, j'avais un peu un tropisme asiatique, je vais pas mentir. Et après quelques voyages, j'avais un désir très fort de partir vivre en Asie. J'ai eu la chance de travailler à l'ambassade de France du Japon et à l'Institut français de Tokyo, où j'étais en charge des arts de la scène. C'est un pays absolument extraordinaire. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à mieux connaître et mieux comprendre sa culture.
On dit que vous êtes polyglotte. Parlez-vous japonais ?
Hi, Nihongo hanasemasu.
Waouh.
Bon, après, en vérité, oui, je parlais à l'époque très bien le japonais, mais j'ai beaucoup, beaucoup oublié. Et c'est difficile d'entretenir toutes les langues quand on ne les pratique pas au quotidien. Donc, c'est vrai que je mets l'accent sur le fait quand je vis dans un pays. Voilà, j'ai vécu au Japon, j'ai travaillé aussi au Chili. Donc, quand je suis dans le pays en question, je mets vraiment l'énergie pour apprendre la langue parce que c'est une manière d'entrer en résonance avec les personnes qui ont travaillé avec les artistes aussi, qui est beaucoup plus profonde. Mais je ne vous cache pas qu'à entretenir au quotidien toutes ces langues, ce n'est pas évident. Donc, voilà, le japonais est un peu rouillé maintenant.
Vous allez quand même entretenir vos langues différentes puisque, d'après ce que je comprends, le théâtre de la Croix-Rousse prend un virage international aussi dans sa programmation.
Effectivement, on a le plaisir d'ouvrir un peu cette programmation sur le monde et on aura des artistes qui viennent d'horizons très variés la saison prochaine. On a d'abord deux programmations qui viennent de Liban, pardon, parce que c'est un pays qui en ce moment vit quand même une situation très particulière et on a voulu mettre un accent sur ce pays, donc qui sera présent avec deux spectacles différents. C'est aussi le cas, on aura un spectacle qui vient tout droit du Brésil, d'une grande metteur en scène de la scène internationale, Christiane Jataï, et c'est la première fois qu'elle vient à Lyon, donc je suis vraiment ravie que ce soit au Théâtre de la Croix-Rousse qu'elle vienne jouer en premier. On aura aussi un chorégraphe très important sud-africain, Grégory Makoma, qui créera un spectacle avec le Ballet de l'Opéra de Lyon, mais aussi des spectacles qui travaillent sur la biculturalité des artistes, comme des artistes qui sont franco-marocains, franco-coréens, franco-irakiens, et dont les spectacles traitent de cette biculturalité, ou des collaborations franco-allemandes, des troupes belges, qui pour certaines sont déjà venues, les publics du Théâtre de la Croix-Rousse connaissent ces compagnies belges et leur qualité, et puis c'est pas de l'international tout à fait, mais on aura quand même de très belles compagnies de l'île de la Réunion, des compagnies circassiennes, ultramarines, et ça c'est vraiment important aussi de représenter notre culture française dans tout ce qu'elle a d'hétérogène et de différent.
C'est pas toujours simple, notamment pour obtenir les visas des artistes, les venues, etc. La dimension internationale a sans doute un coût, mais également une organisation particulière pour le théâtre.
C'est sûr, ça vient avec des formalités différentes, et puis surtout en ce temps post-pandémique, c'est pas sans risque non plus, donc c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait de vouloir défendre ces artistes. J'espère qu'ils et elles pourront tous venir. On va voir les questions de quatorzaine qui seront obligatoires en fonction des pays à ce moment-là. Voilà, on croise les doigts. On espère vraiment avoir une saison qui ne soit pas autant semée d'embûches que celle qu'on vient de traverser. Après, l'international, c'est aussi l'occasion de créer des liens très forts avec d'autres institutions culturelles puisqu'on essaie de faire en sorte que ces artistes ne viennent pas jouer seulement chez nous. Et donc, on travaille à mutualiser avec d'autres théâtres du territoire français pour que ces artistes viennent et jouent dans plusieurs endroits, donc on se partage aussi un peu la complexité de l'organisation. Voilà, par exemple, la première compagnie de cirque qui vient ouvrir notre saison de l'île de la Réunion, elle vient chez nous, mais elle ira aussi dans quatre autres villes de France. Donc voilà, c'est l'occasion de travailler ensemble. Réduire les coûts économiques, mais aussi les coûts en bilan carbone. Ça, c'est important aussi quand on travaille avec des compagnies internationales. On pense aussi à l'impact écologique de leur venue. Et donc, c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte de privilégier des venues sur le territoire français pour des séjours longs où ils rencontrent différents publics du territoire. Donc oui, voilà, mutualiser, ça a beaucoup d'intérêt à plein d'endroits, et pour nous, et pour les artistes, et pour les publics.
Moi, je vais adorer vous interviewer. Vous me donnez des pistes à chaque fois. Vous me lancez des perches. C'est extraordinaire. Les thèmes du féminisme et des enjeux climatiques que vous venez d'aborder seront également très présents pour votre première saison de programmation.
C'est une programmation qui se veut de toute façon en résonance avec son époque et avec les questionnements de la société dans laquelle on vit. Donc, c'est pas parce que moi j'ai voulu imposer ces thèmes-là, c'est parce que ce sont des thèmes qui traversent les artistes aujourd'hui dans leur travail de création et de ce qu'ils veulent amener au plateau. Et c'est vrai que le féminisme, alors c'est sûr, en tant que jeune femme directrice, je ne vais pas m'en cacher, c'est un combat personnel que je mène et que je défends, mais les spectacles féministes qu'on présente, c'est important de dire, c'est un féminisme qui célèbre vraiment dans un monde post-MeToo la force de la sororité et des femmes qui collectivement, on a beaucoup de spectacles qui célèbrent le destin collectif de femmes et comment les femmes ensemble peuvent apporter des éléments de changement dans la société.
Vous avez également un collaborateur, on va le dire comme ça, Joanie Baird, qui est un artiste associé avec lequel vous avez décidé de travailler.
Oui, Joanie, c'est vraiment un artiste formidable que j'ai eu le plaisir de connaître depuis longtemps et puis que j'ai pu faire venir à New York quand j'étais en poste là-bas et on s'est beaucoup mieux connus à cette occasion. Mais Joanie, il vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il a grandi au Puy-en-Velay. Aujourd'hui, sa compagnie est implantée à Clermont-Ferrand. Pour moi, quand j'ai voulu postuler ici, ça avait tout son sens d'inviter Joanie à m'accompagner dans le projet. On a même appelé ça l'artiste complice parce qu'on a voulu que ça aille au-delà simplement du fait de présenter ses spectacles. Il sera à l'affiche avec deux spectacles chez nous la saison prochaine, avec une création qui s'appelle Le Processus, sur un texte très intime de Catherine Verlaguer qui trace le parcours, le seul en scène d'une jeune lycéenne qui se retrouve enceinte et qui se confronte à la question de l'avortement. C'est un spectacle qui est très juste et sans jugement dans le texte, mais où chacun et chacune peut se poser la question de comment il agirait dans cette situation-là, puisque tous les points de vue sont donnés à entendre, y compris ceux des parents, ceux du petit copain de la jeune fille, le sien, etc. Et puis on aura en fin de saison un spectacle de Joanie assez extraordinaire qui s'appelle Une épopée et qui est une aventure pour les publics de tous les âges, mais à partager en tout cas en famille si on le souhaite. Une journée à vivre au théâtre de 10h30 à 16h30 avec des pauses, des goûters, des pauses repas, un moment un peu plus de temps calme au casque et qui est une aventure entre marionnettes, musique, comédiens, comédiennes, deux jeunes, un frère et une sœur qui partent à la découverte d'un monde un peu abîmé et ils vivent tout un tas d'aventures. Joanie vient du monde de la marionnette et donc ses spectacles sont souvent très riches en croisant les disciplines artistiques. C'est aussi quelqu'un qui crée pour tous les âges. Donc voilà, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup sur le plan et humain et artistique et vraiment à ne pas rater.
C'est intéressant, là encore, une perche que vous me lancez sur la dimension inclusive, c'est-à-dire donner la parole aux invisibles. Ça, c'est un élément important, vous disiez, faire revenir les publics dans le théâtre, mais aussi leur donner la parole, c'est-à-dire que finalement, une maison de théâtre, c'est une maison d'abord publique.
Quand on est sur un plateau de théâtre, il faut d'abord se dire qui on est et à qui on parle. Pour moi, cette question, elle est essentielle. C'est ce qu'on peut appeler la question, dans un jargon peut-être un peu technique, de la représentativité. Qu'est-ce qu'on représente et qui est-ce qu'on représente? Et donc oui, j'ai voulu donner une place à des récits de personnes qui sont parfois moins vues et moins entendues dans notre société. Et comme vous dites, donner la parole à ces invisibles. Donc ça passe par exemple, des histoires telles que celui du spectacle Noir de Tania de Montaigne, la journaliste, chroniqueuse, écrivaine et musicienne Tania de Montaigne, qui a enquêté sur l'histoire de Claudette Colvin. Vous n'avez jamais entendu ce nom, moi non plus. Claudette Colvin est une jeune noire adolescente de l'Amérique ségrégationniste qui a été en fait la première personne à refuser de céder sa place dans le bus à un blanc. Pourtant, on connaît tous et toutes le nom de Rosa Parks. Alors du coup, pourquoi est-ce que cette personne a été oubliée dans l'histoire, invisibilisée? Et donc, c'est son histoire qu'on va découvrir à travers ce spectacle, son parcours de vie. C'est aussi la même chose avec le spectacle très joyeux, feel-good de Pauline Bureau, féminine, qui retrace l'histoire de la première équipe de foot féminine en France, équipe de foot qui a été créée en 1968 comme une espèce de blague potache par un journal qui s'est dit « Tiens, voilà, une absurdité, personne ne voudra croire que des femmes jouent au foot » et qui, 10 ans plus tard, la même équipe a gagné voilà, la Coupe du Monde à Taipei en 1978. Donc bon, ici, on est dans les terres de l'OL voilà, féminine, on peut quand même se dire que oui, cette équipe de foot, son histoire a vraiment ouvert des portes. Et donc, on raconte à travers ce spectacle très joyeux l'émancipation collective des femmes dans cette époque. Mais les invisibles, c'est aussi des sujets parfois, des identités qui sont victimes de discrimination, comme des femmes victimes de féminicide qu'on retrouve dans le spectacle de Les Femmes de Barbe Bleue, qui là aussi, même s'il traite un sujet sérieux et important de notre époque, le traite à travers un angle et un prisme très accessible pour chacun, puisque voilà, on est le pitch de départ, c'est quand même les épouses assassinées de Barbe Bleue qui se retrouvent pour une thérapie de groupe pour exorciser le souvenir de leur bourreau. Et donc c'est essayer de faire en sorte de casser le cycle de ces féminicides à répétition. Et puis aussi un spectacle sur la transidentité. Donc voilà, on a Change Me, du coup, qu'on présente en co-réalisation avec le Théâtre des Célestins. On a comme ça beaucoup de spectacles qui effectivement cherchent à donner la parole à des endroits de personnes qui sont parfois moins celles qu'on écoute.
Gérardy, on va terminer avec la présentation de saison qui aura lieu en septembre. C'est un peu différent puisque la plupart des théâtres présentent ça en ce moment, hein, en juin. Vous, vous allez travailler un petit peu différemment pour pouvoir présenter la totalité de la plaquette et puis être sur la scène pour donner envie à de futurs abonnés. Mais les places et les abonnements sont déjà en ligne, je crois.
Les places et les abonnements seront en ligne dès samedi à midi sur le site internet, via la billetterie, au guichet et par téléphone. Effectivement, notre calendrier est un tout petit peu chamboulé par rapport à une année habituelle, mais bon, cette année n'avait absolument rien d'habituel, je crois. Donc, je crois que le public le comprendra et nous le pardonnera. Effectivement, les plaquettes arriveront plus tard chez nos spectateurs et spectatrices dans leur boîte aux lettres à la fin de l'été. Mais on est vraiment à leur disposition d'ores et déjà pour leur parler de la programmation. Moi, personnellement, je serai sur place samedi pour les accueillir et leur parler des spectacles coup de cœur. Il y en a énormément et on est vraiment, toute l'équipe, très heureux de partager tous nos coups de cœur avec et conseiller les personnes qui souhaiteraient acheter dès maintenant des billets. Surtout qu'il y a quelques spectacles aussi, peut-être un peu avec des têtes d'affiche qui pourront être attendues et pour lesquelles il ne faut pas tarder. Je pense à Viril avec Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Cazé, la rappeuse, et le groupe post-rock lyonnais Zéro, où là on a un spectacle assez poignant qui donne dans un concert manifeste à entendre des textes féministes et antiracistes. Donc bon, voilà, il y a quand même des rendez-vous comme ça. Je pense que le public, c'est bien s'il a envie de venir nous voir maintenant, avant l'été. On est là pour le recevoir et le conseiller.
Merci beaucoup, Courtney Gérardi, nouvelle directrice du Théâtre de la Croix-Rousse. Alors, il y a une petite plaquette qui est d'ores et déjà disponible avec des très jolies couleurs. Ça pète, c'est plein d'énergie. Ça vous ressemble. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous et à bientôt.
On termine notre émission, comme d'habitude, bien sûr, avec les Gédéons. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Je vais d'abord parler d'un concert qui va avoir lieu au Théâtre de la Croix-Rousse, justement, le 19 juin. Pas sûr que ça ne soit pas complet, parce que c'est une date qui avait été repoussée suite à ce que l'on sait. Et donc c'est Bertrand Belin qui vient chanter son répertoire avec les Percussions de Lyon. Donc il chante un peu des titres un petit peu connus, dont ce fameux Hyper Nuit, qui est quand même la plus belle chanson de l'histoire de la musique en France, je pense. Parler évidemment, puisqu'on est au Théâtre Comédie Odéon, de la finale du tremplin de chant qui donc aura lieu le 27 juin. Et puis un dernier truc, parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai vu cette semaine et qui m'a enchanté, c'est un film que vous pouvez voir sur Arte en replay qui s'intitule À l'abordage, de Guillaume Braque. C'est l'histoire de trois ados, post-ados, qui rejoignent une petite amie dans la Drôme. Et vraiment, l'histoire est vraiment merveilleuse de tendresse, de subtilité, de légèreté. Enfin, c'est vraiment un film, mais toute la filmographie de Guillaume Braque est étonnante.
Bon, tu m'as fait concurrence, moi j'en ai deux, figure-toi. Je voulais vous signifier quand même deux expositions qui vont se prolonger cet été, enfin se prolonger pas très longtemps quand même, pour le musée théâtre romain Luc Dunhomme, ici à Fourvière. Je sais qu'on pense plus au concert quand on dit Fourvière qu'on ne pense Salade César, par exemple. Eh bien, c'est un tort, puisque l'exposition en ce moment, l'exposition thématique que reçoit le musée antique de Fourvière, s'appelle Une Salade César, la cuisine romaine de la taverne au banquet. Dans un pays où le repas gastronomique est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO et dans une ville, Lyon, surnommée capitale de la gastronomie, l'exposition Une Salade César de la taverne au banquet trouve naturellement sa place en faisant le pari audacieux de déconstruire les mythes fondés autour de l'alimentation des Romains. Du repas de tous les jours à la taverne au banquet donné dans les riches demeures, tous les aspects de l'alimentation romaine et gallo-romaine seront décortiqués, de quoi donner l'eau à la bouche. À voir jusqu'au 4 juillet, dépêchez-vous, c'est bientôt la fin. Et puis, je voulais vous signifier également une exposition que j'adore, qui est en lien aussi avec notre émission, parce que nous parlons régulièrement de musique avec Guillaume, c'est Vinyl Mania, qu'il faut voir absolument. C'est au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Ça a été prolongé jusqu'au 29 août prochain. C'est une très très chouette exposition sur les pochettes de disques, mais pas seulement. Il y a vraiment tout un univers graphique. Vous savez que les galettes de vinyle étaient particulièrement soignées, sont encore particulièrement soignées par les artistes. Il faut savoir qu'on vend des platines disques aujourd'hui, en 2020, avec le confinement. Il s'en est vendu deux fois plus qu'en 2019. Alors les chiffres restent faibles, bien sûr. Mais ça veut dire que quand on est artiste,
artistes, sortir un vinyle aujourd'hui a encore du sens puisqu'on en vend et qu'il y a des adeptes pour ça, des collectionneurs, des gens qui veulent absolument pas du tout passer au tout numérique. L'exposition Vinylmania vaut vraiment le déplacement jusqu'au 29 août prochain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.